Monde en VF présente Papa et autres nouvelles de Vassilis Alexakis. Copyright édition Didier 2012.
Je ne suis pas paresseux. Comme tout immigré, j'ai dû travailler dur pour faire pardonner ma présence en France. L'apprentissage de la langue m'a demandé bien des efforts aussi. Les langues sont des maîtresses très exigeantes et très jalouses, même du passé. Je ne parlais guère de la Grèce dans mes premiers livres écrits en français. J'évitais de me souvenir pour mieux me faire accepter. Il est vrai que mes rapports avec le français ont évolué. Il ne me fait pas trop de scène à présent quand je m'absente longtemps en Grèce. Il ne me pose pas de questions à mon retour. La langue a fini par s'habituer à moi comme je me suis habitué à elle. Je ne nie pas cependant que j'éprouve périodiquement le besoin de passer une journée au lit ou deux journées, très rarement trois. Je ne reste pas inactif pendant ce temps. Je bois du café, je fais des réussites, je fume et je regarde la fumée monter vers le plafond. L'immobilité et la contemplation du plafond sont propices à mon travail. Elles me permettent de songer tranquillement à mes personnages, de m'approcher d'eux, de leur toucher les cheveux. Je prétends en somme que je travaille même quand je ne fais rien, si intensément qu'en sortant du lit, je me sens parfois complètement épuisé. J'étais déjà fasciné par mon lit quand j'étais enfant. Je me plaignais de ma fatigue afin d'obtenir l'autorisation de me coucher. Le lit m'offrait la possibilité de me livrer entièrement à mes activités favorites, la lecture et le dessin. Je lisais des policiers, des feuilletons, et je dessinais des personnages diaboliques et des gitanes aux jupes multicolores. Je me souviens aussi d'avoir dessiné une blonde cheminant sous la pluie. Rêvais-je déjà de la France? Je suis persuadé que j'aurais lu davantage de livres si j'avais eu une santé plus fragile. J'ai découvert Léo de Hurlevent grâce à mon opération de l'appendice. Si j'avais subi une intervention plus grave, peut-être aurais-je lu « Les Misérables » ou « La Divine Comédie ». L'intérêt que je porte aux jeux amoureux tient essentiellement au fait qu'ils se déroulent dans un lit. Suis-je amoureux de mon lit ? Je le suis en tout cas, de mon oreiller. Il me fait penser à un visage dont il m'appartiendrait de réinventer chaque nuit les traits. Papa. Je lis tranquillement le journal, assis au pied d'un arbre au bois de Vincennes, lorsque j'entends une voix d'enfant. « Tu viens jouer au ballon ?» C'est un petit garçon, 7 ans environ, des cheveux blonds bouclés. « Tu sais, » dis-je après une brève hésitation, « je n'en ai pas très envie. » « Dommage, » dit-il. Il me tourne le dos et s'éloigne lentement en poussant du pied son ballon. Sa proposition m'a un peu surpris. Il a l'air de s'embêter, le pauvre. Il n'y a plus grand monde au bois à cette heure-ci. Je ne vois personne aux alentours, strictement personne. Le petit garçon porte des chaussettes multicolores qui lui montent jusqu'aux genoux. C'est la fin du jour. On commence à sentir la fraîcheur de la nuit. Je reprends la lecture du journal, je regarde la page des sports, il n'y a rien sur le football. Je parcours la liste des nouveaux films, je saute les pages consacrées à l'économie, je m'arrête à la dernière. Fusillade, boulevard Voltaire. J'ai presque fini la lecture de l'article lorsque la même voix dit « J'ai faim !» Le petit garçon se tient à 1 mètre de moi, le pied gauche posé sur le ballon. Il regarde par terre. Il a un joli visage, régulier et fin, de grands cils. Ses cheveux lui couvrent entièrement le front. « Tu devrais aller chercher tes parents, » dis-je. Il me regarde dans les yeux, brusquement il éclate de rire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Son rire m'agace. Je plie le journal, je me lève, je remonte la fermeture à glissière de mon blouson. « Bon, allez, salut !» J'hésite pourtant à m'en aller. Je ne peux pas le laisser là, tout seul. Mais où sont ses parents ? La nuit va bientôt tomber. « Tu ne vas pas chercher tes parents ? Tu es venu avec ta maman ? Mais on est venu ensemble, papa. » Je le regarde un moment, incapable de dire quoi que ce soit. Il ne rit plus. Ses yeux me fixent innocemment. Je lui demande, en m'efforçant de parler doucement, « c'est moi que tu appelles papa ? Ma question ne semble pas l'intéresser. On y va ? Dit-il. J'ai froid. Où veux-tu qu'on aille, bon sang ? À la maison ! Il a presque crié, comme s'il était exaspéré par mon attitude. Écoute, mon petit, dis-je, ne t'énerve pas, sinon je vais me fâcher aussi. Je veux bien te conduire chez tes parents, mais il faut que tu me dises où ils sont. À ton âge, tu n'as pas dû venir au bois tout seul, n'est-ce pas ? Alors, dis-moi avec qui tu es venu ? Avec toi, papa ! Peut-être est-il fou. Peut-on être fou à son âge ? Sans doute est-ce un jeu. Mais quel genre de jeu ? Il s'est perdu dans le bois, l'explication est simple, et il est venu vers moi parce qu'il n'y avait personne d'autre. Pourquoi ne le reconnaît-il pas ? S'il y avait un gardien, je pourrais lui demander conseil. Mais il n'y en a pas. Allons par là, dis-je. On va peut-être trouver quelqu'un. Il marche derrière moi, pas assez vite, car je l'entends courir de temps en temps. Je pense aux histoires d'enfants égarés qu'on me racontait jadis. Ils apercevaient toujours une fenêtre éclairée au fond de la nuit. Je m'arrête. Tu dois habiter près d'ici. Tu es venu tout seul au bois, non ? Il tient son ballon sous le bras gauche et une branche d'arbre à la main droite. Eh bien, réponds ! J'ai froid, papa. J'ai l'impression qu'il aimerait que je le prenne dans mes bras. J'enlève mon blouson, je le lui pose sur les épaules, je me mets à genoux devant lui pour le regarder bien en face. Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles papa. Je ne suis pas ton papa. J'ai 22 ans. On ne peut pas être le papa d'un grand garçon comme toi à 22 ans, tu comprends ? On se remet en marche. Je ne vois toujours personne. Qu'est-ce que je vais faire de ce gosse ? Ses parents ont dû rentrer chez eux. Ils ont probablement prévenu la police. Où tu habites ? Tu connais le nom de ta rue ? Gabriel Moreau, dit-il d'une voix à peine audible. J'espère qu'il ne se trompe pas. Gabriel Moreau, ça a bien l'air d'être un nom de rue. Bon, c'est parfait, on prendra un taxi. On continue de marcher, moi devant, lui derrière. Le ciel a gardé un peu de lumière du jour, mais dans le bois, il fait presque noir. Il me semble que j'entends moins distinctement que tout à l'heure les bruits de la ville. On a peut-être pris une mauvaise direction ? Mais non, on finira bien par trouver une route, un taxi. J'imagine la joie de ses parents quand ils vont nous voir. J'espère qu'ils me rembourseront le taxi. En tout cas, je serai bien content d'être débarrassé de leur fils. On va bientôt arriver, dis-je. M'a-t-il entendu ? J'aperçois sur la droite, au milieu des arbres, une voiture stationnée, tout feu éteint. J'imagine un couple en train de faire l'amour sur la banquette arrière. Moi aussi, j'ai un peu froid. À une cinquantaine de mètres de là, on débouche sur une route asphaltée. On n'a qu'à attendre. Il s'assied au bord du trottoir et se met aussitôt à sucer son pouce. Tu es fatigué ? Il fait oui, en baissant la tête. Il regarde le bois qui continue de l'autre côté de la chaussée. Qu'est-ce que je vais faire en rentrant chez moi ? Je mangerai une omelette, puis je me coucherai. Si j'en ai le courage, je réviserai au lit mon cours de littérature, j'écouterai la radio, je serai bien dans mon lit. Et si je ne trouve personne chez le gamin ? Je m'adresserai au concierge, j'irai chez les flics. Tiens, une voiture, c'est un taxi. Une voiture, dit-il en se levant d'un bond. Je fais signe au chauffeur, il ne s'arrête pas, il a déjà un client. Les réverbères qui bordent la route viennent de s'allumer. Il y en a un tous les 30 mètres environ. Leur lumière grisâtre n'éclaire pas grand-chose. Le petit reste debout, guettant un autre véhicule. Comment tu t'appelles ? Je sens qu'il est en train de se passer quelque chose en lui. Ses lèvres tremblent. Voilà, il se précipite dans mes bras. Le ballon roule par terre. Il me serre fort de ses deux mains. Il pleure, je crois. Je lui caresse les cheveux. Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles ? Mais tu le sais bien, papa ! Oui, il pleure. Un taxi, ça y est, il s'arrête. Je ramasse le ballon, je prends la main du petit, On court jusqu'à la voiture. « Rue Gabriel Moreau, » dis-je au chauffeur. S'il prétend qu'il ne la connaît pas, qu'elle n'existe pas. Mais le chauffeur ne dit rien. La voiture démarre. Je m'assieds plus confortablement. Le gamin a posé la tête sur le bras qui sépare la banquette en deux. Il a fermé les yeux. Je tiens son ballon sur mes genoux. On se dirige vers le nord. Après Saint-Mandé, on prend le périphérique et on continue à rouler vers le nord. Ça ne me rapproche pas de chez moi, mais tant pis. Il est 20h22 à l'horloge du tableau de bord. On sort du périphérique à la porte des Lilas, on contourne le rond-point, on rentre dans Paris. Le petit s'est redressé. Il regarde maintenant dehors, par la portière. J'ai bien envie de lui demander « Tu reconnais ?» Mais je me tais. On tourne à droite. J'essaie de lire le nom de la rue. C'est la rue Gabriel Moreau. « Elle est où ta maison ?»«
Là-bas, où il y a le sens interdit. » »«
Vous vous arrêtez là où il y a le sens interdit, » dis-je au chauffeur.
« J'ai entendu, » dit-il.
C'est un immeuble moderne, un peu moins grand qu'une tour. Je n'aurais pas été surpris de trouver une voiture de police dans la rue, des flics, peut-être même un monsieur en pyjama. L'entrée de l'immeuble est déserte.
« C'est à quel étage ? » dis-je.
« Au cinquième. »
Si je le laissais là, si je le laissais monter tout seul, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai aucune envie de voir ses parents, de perdre encore du temps à leur raconter ce qui s'est passé. Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Je veux rentrer chez moi. Je me sens fatigué comme si j'avais accompli un effort bien au-delà de mes capacités, bien au-delà de ma volonté aussi. J'ai vaguement l'impression que je me suis laissé avoir. J'évite de regarder l'enfant. Sa présence m'est insupportable. Je lui tordrais volontiers le bras. Les panneaux de la porte de l'ascenseur s'écartent.
« Allons-y, » dis-je.
Il est déjà dans la cabine. J'appuie sur le bouton du cinquième. C'est toujours moi qui tiens le ballon. J'ai le cœur qui bat. Nous y sommes. Le petit court jusqu'à la porte, se dresse sur la pointe des pieds pour atteindre la sonnette. Une dame nous ouvre. Elle est vêtue d'une chemise de nuit violette avec des fleurs blanches. Elle a des cheveux bouclés, un joli visage. Une quarantaine d'années, peut-être. Elle embrasse le petit sans effusion particulière.
« Tu dois avoir faim, » dit-elle simplement.
Elle ne semble pas avoir remarqué ma présence. Elle disparaît à l'intérieur de l'appartement, suivie par le petit, en laissant la porte ouverte. Je reste là. J'aperçois un coin du salon, une vieille malle, un tapis blanc. J'attends un peu, puis, passant la tête dans l'encadrement de la porte, j'appelle
« S'il vous plaît, madame !»
La voilà.
« Je vais m'en aller, madame. Je trouve que vous auriez pu au moins me dire merci. »
Elle a l'air plutôt amusée.
« Pourquoi te dire merci ? » ?»«
Je vous signale que je n'étais pas du tout obligé de vous ramener votre gosse. J'ai autre chose à faire, vous savez. »
« Mais qu'est-ce qui te prend ?»«
Et puis, je ne vous ai pas du tout autorisé à me tutoyer. Bon, ça suffit comme ça. Bonsoir. » Je tire la porte, j'appelle l'ascenseur, j'entends la porte s'ouvrir derrière mon dos.
« Écoute, je t'en prie, arrête cette comédie, » dit-elle.
Je me retourne.
« Mais quelle comédie, madame ? Quelle comédie ? » ?»«
Ne crie pas, les voisins vont nous entendre.
Je m'en fous. Je vous ai dit de ne pas me tutoyer, c'est clair, non ? » ?»«
Arrête, Jean. » Elle avance vers moi, d'un pas hésitant, craintif.
« Vous connaissez mon nom ?»
Elle est tout près de moi, maintenant. On se dévisage. Je suis presque certain de ne l'avoir jamais rencontrée.
« Mais bien sûr, Jean. »
C'est peut-être une amie de ma mère, une amie que je n'ai pas vue depuis mon enfance. Une autre idée me vient à l'esprit. Elle laisse systématiquement son fils dans le bois et elle fait toujours semblant de reconnaître le type qui le lui ramène à la maison.
Comment a-t-elle deviné mon nom ?
« On sera aussi bien à l'intérieur pour discuter, n'est-ce pas ? » dit-elle.